Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet, suite et fin cette semaine de notre série consacrée à la Journée mondiale de la radio. Une célébration placée cette année sous le sceau du sport et de la diversité dans la couverture sportive. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés au journalisme sportif féminin. Cette semaine, suite du débat sur cette question avec Annie Gasnier de RFI. Puis direction la Tunisie pour se concentrer sur la sauvegarde des jeux traditionnels afin de promouvoir la diversité dans la couverture sportive. Et ce, avec Ezzedine Bouzid, président de l'Association tunisienne de jeux et sports traditionnels. Mais d'abord, honneur aux femmes et à la journaliste donc Annie Gasnier, qui sur les ondes de RFI, Radio France Internationale, présente l'émission Radio Foot International. Manon Miskowski lui a demandé s'il est compliqué ou difficile d'être journaliste sportive.
Alors, je ne suis pas une journaliste sportive, je suis d'abord une journaliste. Et je pense que ça, c'est toute la notion qui fait la différence, c'est-à-dire que j'ai un parcours où d'abord j'ai fait des études de journalisme avant de travailler dans le service des sports. J'ai une longue expérience de terrain, j'ai passé 20 ans en Amérique du Sud, j'étais correspondante notamment pour RFI et pour d'autres médias français et francophones. Ensuite, j'ai atterri effectivement au service des sports. Au début, c'était pas simple, d'abord peut-être parce que j'avais pas l'expérience. Justement, j'avais une vague expérience au Brésil où tous les 4 ans, il y a une Coupe du Monde. Et donc, le Brésil étant toujours une des équipes favorites, j'étais obligée de travailler beaucoup sur le football, mais sur le football européen, la Ligue des Champions, tout ça, j'étais pas forcément ni connaisseuse ni donc légitime. Donc, j'ai beaucoup travaillé au début. Et heureusement, j'avais une équipe où j'avais 2 passionnés de foot autour de moi. Et ça m'a beaucoup aidée. Et puis, le service des sports d'RFI qui, évidemment, était là pour ça. Quand on va parler du football turc, pourquoi les joueurs partent en Turquie actuellement, on va parler plus de géopolitique, quand le Qatar se retrouve avec les frontières fermées, est-ce qu'il pourra organiser une Coupe du Monde? Donc on va un peu au-delà, et je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis crédible à mon poste.
Est-ce que vous voyez une différence entre la façon dont les athlètes féminines sont représentées comparé aux athlètes masculins?
Bah oui, alors ça dépend des disciplines sportives, mais le sport, le football étant quand même un sport très masculin. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout une admirative du football féminin par définition. Et c'est vrai que on entendra souvent « Ah, elle est mignonne » ou des trucs comme ça, des trucs qu'on se permet alors qu'on ne va pas se permettre sur Cristiano Ronaldo ou sur Messi, qu'ils soient beaux ou moches. On parle de leurs pieds, de leur talent, de leur record, de leur ballon d'or. Donc, il y a une différence là-dessus, effectivement. Mais dans d'autres sports où les femmes, entre guillemets, sont plus légitimes ou plus crédibles, je pense à l'athlétisme, je pense au volley, je pense au basket... Je pense qu'il y a de plus en plus, en tout cas en France, de plus en plus quand même de garde-fous.
Comment pensez-vous que la radio et les autres médias, ils pourraient contrer cette différence dans la représentation qui est faite?
La radio?
Ouais. Et ou les autres médias, mais en particulier la radio.
Surtout en n'insistant pas toujours sur le côté physique et sur le côté subjectif. Parler d'abord de quelqu'un dans le sport par sa capacité et par sa valeur. Sa valeur sportive, bien sûr. Après, je pense que c'est une émulation collective et surtout ne jamais manquer, disons, de... On peut le faire élégamment, hein, de tacler, de mettre en boîte quelqu'un, de plaisanter ou de lui faire réaliser un peu ce qu'il a dit, quoi. Mais ça peut ne pas être agressif, ça peut être aussi... et je pense que la personne s'en apercevra peut-être mieux, d'ailleurs.
Quelle est la couverture faite des sports populaires au niveau communautaire? Comment les médias peuvent-ils améliorer la couverture de ces sports populaires et communautaires?
Je pense que là, ça peut sortir peut-être du cadre sportif. Parce que malgré tout, le sport, c'est le résultat, c'est la performance et c'est finalement les compétitions et les récompenses. Donc la solution, c'est peut-être de le faire sortir uniquement du cadre sportif. Par exemple, parce que ça s'inscrit dans un contexte social d'un quartier, d'une communauté, d'un pays, d'une région. Parlons de la pelote basque. Je ne vois pas comment, dans le service des sports, nous, ici, on peut en parler. Surtout quand on a une radio internationale. Par contre, les médias de Biarritz, de Bayonne, c'est complètement logique qu'ils parlent de la pelote basque. Et ils ont leurs championnats régionaux, ils ont leurs héros régionaux. Mais tout le monde connaît les codes. Sur RFI, on a par exemple un programme qui s'appelle Grand Reportage, où on va parler de, je sais pas, de la Syrie en reconstruction ou du Tchad qui manque d'eau. Et puis on va aussi parler de la pratique de la pelote basque dans la région de France, d'Espagne, voire les Basques qui sont partis vivre en Amérique du Sud, par exemple. Donc je pense que dans ce cas-là, il faut le sortir du côté sportif, parce que là, ça n'est plus une performance, même si c'est une pratique sportive. Mais je pense que là, elle a plus un rôle social qu'un rôle de performance.
Pourquoi pensez-vous qu'il est important de couvrir, quand même, dans les médias, un plus grand éventail de sports, et particulièrement à l'antenne ?
Parce que c'est la globalisation. Je pense que effectivement, quand par exemple on dit il y a eu la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, en fait l'Afrique du Sud n'est pas un pays de football. Mais ça, les gens le savaient pas. Alors après, que ce soit la première fois qu'un pays africain l'organise, Mandela, tout ça, oui. Mais les gens ne réalisaient pas que l'Afrique du Sud, par exemple, qui reçoit une Coupe du Monde, n'est pas forcément un pays de football. Et c'était, c'est surtout un pays de rugby, par exemple.
Afin d'assurer une couverture plus diversifiée et plus équitable des genres dans le sport, quel serait votre message pour la Journée mondiale de la radio 2018?
Oui, bon, évidemment que le journalisme sportif est encore très masculin et que pour ce qui est des genres, c'est encore un peu compliqué. Mais j'ai l'impression que si une fille est compétente, je pense qu'elle est acceptée sans aucun problème dans les tribunes du Parc des Princes. On ne va pas la montrer du doigt, on ne va pas... Je pense que c'est avant tout ça, quoi. Alors, c'est sûr que la direction a aussi son rôle à jouer, parce que est-ce qu'elle laissera des femmes aller dans ce genre de service des sports, ou en tout cas dans les couvertures sportives ?
La célébration de la Journée mondiale de la radio qui est aussi l'occasion de s'intéresser à des causes méconnues, à l'instar des jeux et sports traditionnels de Tunisie. Des jeux et sports qui doivent être diffusés afin de promouvoir la diversité dans la couverture sportive, plaide Ezzedine Bouzid. Il est président de l'Association tunisienne de jeux et sports traditionnels. Il souligne l'importance de ces jeux en tant qu'entité culturelle et la nécessité de les couvrir médiatiquement afin qu'ils puissent survivre. Il est également interviewé par Manon Miskovski.
Ce qui intéresse, ce qui fait de l'importance aux gens de se présenter et de pratiquer les jeux et sports traditionnels, c'est qu'ils font partie de ces jeux et ils font partie de leur histoire et de leur identité. Donc ils représentent leur culture et c'est pour cela qu'ils s'attachent à cette culture, ils s'attachent au sport et en plus c'est une activité qui leur fait plaisir et elle est en rapport avec toute la vie quotidienne, tous les événements qui se passent au cours de la vie à partir de l'enfance jusqu'à la vieillesse. C'est ça qui fait le lien entre l'homme et l'activité ludique et les sports traditionnels.
Quels sont les sports traditionnels les plus connus dans votre région? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont leurs forces en termes de participation et d'audience?
Dans notre région, qui est la Tunisie, qui fait partie du Grand Maghreb, donc le nord de l'Afrique, les sports traditionnels d'origine un peu de différentes cultures. Parce que la Tunisie a été occupée par plusieurs nations. Donc on a la culture arabo-islamique, la culture romaine, elle vient de l'Italie, aussi l'antiquité grecque et surtout la culture des habitants du pays qui sont les Amazighs et les Berbères. Tout ça, ça fait un mélange de cultures. Il y a une transmission des jeux et sports traditionnels à travers l'histoire. Ce qui reste sur le terrain actuellement, généralement, c'est des sports qui font partie de la culture, surtout arabo-islamique. Donc on a la lutte traditionnelle qui s'appelle Grèche. Elle est encore pratiquée pendant les fêtes de mariage. Et nous avons aussi les courses de chevaux. C'est tout ce qu'on appelle la fantasia, les jeux équestres, qui se divisent sur plusieurs formes, surtout l'acrobatie sur cheval, la danse des chevaux, etc. Donc ce sont les jeux les plus importants qui sont toujours représentés pendant les festivités, une fois par an, ou pendant les mariages. Chaque fois il y a le mariage pendant l'été, il y a toujours de la lutte traditionnelle.
Est-ce que ces sports, ils existent au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a des compétitions internationales ou des ligues?
Généralement, non. En Afrique, oui, ça existe. En Afrique centrale, il y a la lutte africaine. Donc cette lutte africaine, elle est bien développée, bien constituée, il y a des championnats. Par contre, en Tunisie, la lutte, elle est de divertissement, de représentation culturelle et ethnique. Il y a aussi des courses de chevaux, peut-être. Ce sont des courses à caractère professionnel. Il y a aussi les courses de chameaux. Il y a aussi ce qu'on appelle le mchef, un autre style de jeu avec l'arme sur cheval qui s'appelle le mchef. Donc là, ici, on peut donner des prix et désigner les meilleurs et les champions à chaque manifestation.
Et est-ce que les jeunes sont conscients de l'existence de ces sports et pourquoi vous pensez qu'il est important pour eux d'en apprendre davantage sur ces sports ?
Les jeunes, maintenant, ils sont influencés par la technologie moderne. Ils sont orientés vers les sports de compétition, les sports soi-disant olympiques. Mais les sports traditionnels, ils sont un peu délaissés. Mais heureusement, nous avons notre association qui vraiment combat. Elle organise beaucoup d'activités pour sauvegarder et promouvoir ces jeux-là à travers la formation des animateurs, la formation des cadres, la formation aussi des instituteurs, la formation des animateurs touristiques. Donc on fait beaucoup de choses sur le plan national et sur le plan aussi international. En plus, on a essayé de rapprocher ces jeux-là dans les maisons des jeunes, surtout les régions rurales. Dans les régions rurales, il manque d'activités de loisirs, ils n'ont pas les moyens des sports modernes, donc on peut inclure ça facilement dans les clubs des maisons des jeunes rurales et itinéraires. Et en plus, dans les écoles primaires, nous avons des expériences pour l'instauration des jeux traditionnels dans les programmes pédagogiques et d'éducation de l'enfant.
Et selon vous, pourquoi vous pensez qu'il est important que les médias couvrent davantage les sports traditionnels ?
Parce que si les sports traditionnels sont en voie de destruction, on va les perdre, la mémoire ne retient plus. Donc le rôle des médias est surtout un rôle capital et important, un rôle de sauveur. Il faut sauver ces activités, donc on doit les enregistrer, on doit les diffuser. Et les médias, ils ont une capacité de sensibilisation et de visibilité pour ce sport traditionnel. Donc, il est primordial même d'aller sur le terrain et de faire des enquêtes, et d'écouter les gens et voir les jeux, et présenter les règles des jeux, comment les gens pratiquent ces jeux, quel type de matériel ils utilisent, comment les gens s'assoient, quels gestes utiliser, quelles paroles, quelle musique, etc. Donc c'est ça la richesse. La richesse des jeux et sports traditionnels, elle est là surtout quand on les valorise à travers les médias.
Et est-ce que vous avez en tête des exemples de sports traditionnels qui ont aidé les communautés à s'unir et à mieux vivre ensemble dans votre région ?
Oui, il y a ce qu'on appelle le jeu collectif avec balles. Il y a un jeu avec les bâtons préparés d'un arbre qui s'appelle le palmier. Donc ces jeux-là étaient un support de cohésion entre les ethnies qui se trouvent dans une zone géographique. Donc ils jouent ensemble, ethnie contre l'autre, pour à la fin manger ensemble. Le gagnant prépare à manger pour tout le monde. Donc c'est très intéressant. Et en plus, chez nous en Tunisie, le mariage traditionnel surtout se base sur les jeux. Donc ces jeux-là étaient utilisés pour favoriser aux deux familles de se connaître premièrement et en plus de préparer un petit budget économique pour le mari et la mariée afin de survivre et afin de convaincre les premières étapes de vie qui est difficile, point de vue alimentation, point de vue adaptation socio-culturelle.
Voilà, et c'est avec Ezzedine Bouzid, président de l'association tunisienne de jeux et sports traditionnels, que se referme Escale, un magazine consacré cette semaine à la journée mondiale de la radio. Un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet, avec la collaboration d'Aditi Tiagi et de Manon Miskotski de l'UNESCO, et aussi, alors qu'à la console, officier Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.